Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h46, c'est le petit déjeuner politique de Guillaume Larrivé, qui est député Les Républicains de Lyon et président de la France de demain.
Bonjour Guillaume Larrivé.
Bonjour.
Séminaire du gouvernement sur la sécurité ce matin, avec d'ailleurs le Premier ministre Jean Castex à distance, comme il a été en contact avec le patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Au passage, est-ce que les politiques sont assez prudents là en ce moment face au Covid, en multipliant les déplacements ou pas ?
Je pense que, comme tous les Français, on doit faire attention. Quoi. Voilà, ouais, moi, je suis beaucoup sur le terrain dans ma circonscription de Lyon. J'essaie, comme vous, de mettre le masque, de respecter les gestes barrières. J'ai annulé un événement festif où j'avais 250 inscrits la semaine prochaine. Voilà, il faut faire gaffe, pour le dire de manière familière et directe. Jean Castex, comme les autres, bien sûr.
10 jours, 14 jours, c'est peut-être pas un peu beaucoup, justement, de mise à l'écart.
J'ai pas d'avis technique là-dessus.
Non.
Je pense que chacun doit rester
dans
son champ.
Parce que là, on dit qu'on pourrait revenir à 7 jours. Non, mais c'est vrai. Voilà. Mais bon, vous consultez, vous êtes politique, vous les consultez aussi, quoi.
Voilà, mais vraiment, je veux pas. Il y a tellement de gens qui blablatent pour ne rien dire sur tous les sujets. Je suis pas scientifique, je sais pas si c'est 14 jours ou si c'est 7 jours. Ce que je sais, c'est qu'il faut faire très attention parce que, évidemment, la pandémie est pas derrière nous. Moi, j'ai eu, comme je pense, beaucoup de Français dans mon entourage, des personnes qui ont été frappées durement. On s'est même retrouvé parfois dans des églises, dans des messes d'obsèques. Voilà, il faut faire très attention.
Oui, alors vous êtes un spécialiste un petit peu plus des questions de justice et puis également de sécurité. Il y a le séminaire tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, concrètement, pour ne pas rester au stade des belles déclarations ? Parce que c'est ce que vous dites dans une tribune du Figaro ce matin. Arrêtons avec les grands discours.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de radotage, il y a beaucoup de postures dans ce débat. Il y a ceux qui disent « il suffit d'augmenter les effectifs », alors qu'il y a déjà 250 000 policiers et gendarmes dont il faut assurer un bon
management.
Ah, mais
il n'y a pas de baguette magique, quand même.
Et puis, il y a ceux qui disent aussi, toujours un peu les mêmes choses, il faut faire des peines planchers, construire des prisons, tout ça. Je pense que c'est vraiment un travail, en réalité, très difficile, qu'on doit prendre de manière pratique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Premièrement, je pense qu'il faut faire un peu plus confiance au terrain. Les cadres intermédiaires, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police, il faut qu'on leur donne plus d'initiative. On appelle ça en langage un peu technique de la déconcentration, mais je pense qu'il faut leur faire confiance dans leur capacité d'initiative. Deuxièmement, je pense que dans certains endroits, dans certaines grandes agglomérations où les maires font le boulot, il faut là aussi leur faire confiance et ne pas hésiter à envisager de décentraliser la sécurité publique, c'est-à-dire concrètement mettre sous commandement mixte préfet-maire, des forces de sécurité publique. Je pense à des agglomérations où le travail est fait. A contrario, vous avez des endroits, Patrick Roger, où vous avez des maires qui sont complices de l'insécurité, ou en tout cas qui sont très déficients.
Ah oui, donc c'est ça qui est difficile. À partir de quel moment vous allez juger que vous devez donner le pouvoir au maire ou pas, alors ?
Eh bien, il faut, en fonction des réalités locales, être très pragmatique. Vous avez des endroits où les maires ne font pas du tout le travail et même sont complices, parce qu'il y a des deals communautaristes.
Vous pensez à certains ?
Je ne veux pas désigner tel ou tel maire, mais j'ai... Quelques à l'esprit. Et comme conclusion pratique, je pense qu'il ne faut pas hésiter, dans ce cas, à mettre sous tutelle un territoire communal. Concrètement, par exemple, dire on retire à un maire la gestion du parc locatif social parce qu'il ne fait pas le travail, et c'est géré directement par le préfet. Même chose sur certains sujets de déclaration d'urbanisme. Voilà, je pense que sur le territorial, il faut finalement être très pragmatique. Il y a des endroits où il faut travailler à fond avec les maires, il y a des endroits où il faut assumer une mise sous tutelle pour reprendre la main. Et puis vous avez tout un autre aspect dont je veux dire un mot à l'instant.
Oui, bien sûr.
S'agissant de l'autorité judiciaire et du pénal, là aussi, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse du cas par cas. Ouais. La prison n'est pas forcément la solution dans tous les cas. Pour un mineur primo-délinquant, je pense que c'est sans doute beaucoup mieux d'envisager un travail d'intérêt général, par exemple dans un cadre militaire ou paramilitaire, très encadré, plutôt qu'une peine de prison, bien sûr. Dans d'autres cas, c'est très bien qu'il y ait une amende, une saisie, bref, une sanction financière. Et puis dans d'autres cas, au contraire, il faut aller en prison et là frapper très très fort. Je vous fais une proposition ce matin. Lorsque un délinquant commet, par exemple, deux ou trois, réitérant, un récidiviste comme on dit, deux ou trois actes de violence grave. Moi je propose qu'on criminalise, c'est-à-dire qu'on le punisse d'une peine de réclusion criminelle d'au moins 10 ans. Ça serait une manière... ça serait une manière, au fond, une sorte de peine d'élimination sociale.
Mais on dit souvent, bien souvent, que ces jeunes voyous apprennent encore mieux auprès des caïds en prison.
Mais précisément, je vous dis que le sujet, c'est pas d'aller leur faire faire un stage de quelques mois en prison pour aller, si j'ose dire, apprendre le métier
de plus
la
fort.
Délinquance. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre à l'écart de la société des individus multiréitérants violents, en assumant le fait qu'en effet, on cherche à les éliminer socialement.
Est-ce que cette proposition peut être prise en compte par Gérald Darmanin et le gouvernement aujourd'hui? Comment elle peut être...
Peut-être, en tout cas, moi, je l'ai fait vraiment...
Je l'ai fait vraiment dans
un esprit d'intérêt général. Je ne suis pas du tout en train d'essayer d'alimenter la petite machine à polémique médiatique. Je ne cherche pas à faire des coups. Non. Je cherche, comme député, libre, indépendant, à contribuer au débat public. C'est pour ça que j'ai fait cette tribune. J'ai de très bonnes relations avec Gérald Darmanin. Voilà. Enfin, je pense qu'il faut que le schmilblick avance, si vous permettez cette expression familière. Parce qu'on doit faire le travail.
Oui. Voilà. Est-ce que Darmanin et Emmanuel Macron sont à la hauteur pour ça? Hier, le chef de l'État a accusé la presse d'avoir fait le Kama Sutra de l'ensauvagement. Qu'est-ce que vous avez compris de cela, vous?
Ce que je comprends, et il n'a pas tort, c'est qu'on ne doit précisément pas faire trop de débats de mots. Moi, je n'ai pas aimé la séquence où pendant 15 jours...
Ça fait 3 ans qu'il est là. Sur l'insécurité, visiblement, ça n'a pas progressé, quoi.
Oui, mais sur la séquence particulière des 15 derniers jours, je pense que ça fait plaisir peut-être à certains, mais on ne va pas faire un débat sémantique-ontologique pour savoir si ce sont des sauvages ou des barbares ou des canailles ou des voyous, etc. Enfin, tout ça est extrêmement intéressant, mais c'est un sujet de colloque. Le vrai sujet, c'est qu'il faut faire le job de manière concrète en se rattachant au réel. Et il y a eu beaucoup de retard. Castaner a été nul.
Ouais, Guillaume Larrivé et le tandem Darmanin Dupond-Moretti, est-ce qu'il peut marcher pour ça? On n'a pas l'impression qu'il parle la même langue.
On verra à l'usage. En tout cas, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est un ami. On échange. Je connais bien aussi son entourage. J'ai confiance dans la capacité.
Mais vous n'avez pas confiance dans Dupond-Moretti?
Je le connais moins.
Ouais. Vous avez confiance ou pas confiance?
Mais c'est pas le sujet. Pas seulement Patrick Roger, parce que c'est pas juste un sujet psychologique de confiance. On juge les gens aux actes.
Bien sûr. Mais
Monsieur Dupond-Moretti est, comme on dit, un ténor du barreau. Comme garde des sceaux, on verra ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Je ne suis pas sûr que je serais, si j'étais dans sa situation, je ferais exactement la même chose.
Oui. D'un mot aussi, il y a beaucoup l'insécurité qui est aujourd'hui dans le débat. Il y a l'explosion aussi à la fraude sociale, des prestations sociales, avec un rapport qui est rendu de la Cour des comptes. Est-ce que là aussi, vous avez l'impression que l'État, finalement, a peur de s'y attaquer?
Non, en réalité,
ça
fait un peu partie des marronniers, pardon. Enfin, le rapport de la Cour des comptes, je ne l'ai pas encore lu, puisque je crois que ça sort aujourd'hui.
Oui, absolument.
Je pense
de 1 à 14 milliards.
On doit, en tout cas, s'il y a bien un sujet sur lequel on doit progresser, c'est sur les logiciels informatiques, de contrôle, d'interconnexion. Il y a sans doute beaucoup d'abus qui doivent être traités de manière sérieuse.
La droite maintenant, où en est-elle là, les Républicains? Est-ce qu'il y aura vraiment un candidat pour 2022? François Baroin, visiblement, il ne veut pas y aller.
C'est ce qu'on lit et c'est ce qu'on entend. Écoutez, moi, j'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy lorsqu'il a fondé les Républicains en 2015-2016. Et je reste très engagé dans ce mouvement. Je suis président des Républicains de Lyon.
Aller au gouvernement
Très engagé.
Vous seriez bien allé à la place de Dupond-Moretti, quoi.
Je vous laisse le dire et je ne démonte pas nécessairement. Mais en tout cas, je suis engagé au sein des Républicains et même si je n'aime pas trop le terme de famille politique, en tout cas, c'est le mouvement. Voilà, on est censé être les héritiers de De Gaulle et Nicolas Sarkozy.
Jean Castex, lors de son discours de politique générale.
Vous m'interrogez sur les Républicains. L'avenir des Républicains, c'est quoi? Pour moi, en 2020, en 2021, on doit à la fois faire le travail sur les territoires, et je me réjouis par exemple que ma ville d'Auxerre ait été reprise, etc. On a beaucoup de choses à faire dans les territoires, dans nos mairies, nos départements, nos régions, bien. Et au plan national, on doit contribuer, comme je viens de le faire sur la sécurité, dans un état d'esprit d'intérêt général. J'aimerais quand même que chacun comprenne dans ce milieu politique qu'on est en train d'affronter la dépression économique la plus grave depuis 100 ans. On a 11 ou 12% de récession. Bien. On a des difficultés sociales immenses. On a la nécessité de rétablir l'ordre républicain. Donc, notre mission, ça ne doit pas être de regarder notre nombril et de se demander qui va être en 2022 ceci ou cela. Notre mission au Parlement, dans cette responsabilité qu'on a, qui nous a été confiée par les Français, c'est de travailler au service de l'intérêt général. C'est pour ça, moi, j'appelle plutôt à l'unité nationale, Patrick Roger. J'ai envie...
Donc, derrière Emmanuel Macron?
Non, c'est pas derrière. Je suis aux ordres de personne. Je suis pas aux ordres du président de la République. Je suis pas non plus aux ordres des apparatchiks, des partis politiques. On doit, de manière libre et indépendante, chacun dans notre fonction, vous comme citoyen, moi comme citoyen, moi comme député, je rendais compte aux habitants de Lyon qui m'ont élu, on doit essayer de contribuer
Mais est-ce qu'il y a un homme, une femme quand même chez les Républicains qui peut incarner ça?
On s'organisera en 22. Moi, je ne sais pas vous dire qui soutiendra au premier tour de la présidentielle en 2022. Je ne le sais pas. On verra en fonction
de
la
situation. Vous avez cité le nom de Nicolas Sarkozy. Vous y pensez sérieusement pour 2022 ?
Ça peut être une hypothèse, évidemment, et je vous le dis. Pourquoi ? Parce que être président de la République, c'est être capable de diriger l'État, petit 1, petit 2, de rassembler les Français, petit 3, d'incarner la France. Quand vous regardez ces trois critères, et que vous, ensuite vous regardez le personnel politique, il n'y en a pas 45 000 qui ont cette capacité. Nicolas Sarkozy, assurément, a cette capacité de leadership et cette capacité presque historique à diriger la nation. On verra ce qu'il veut faire.
Oui, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus.
Oui, si en tout cas il voulait revenir dans l'arène politique, je serais bien sûr à ses côtés.
Ben, y en a qui vont revenir justement dans l'arène, c'est les gilets jaunes avec pas mal d'activités en colère, les discothèques, les uniformes, les blouses blanches qui seront là le 12 septembre. Vous aviez dit à l'époque que c'était un cri de détresse et le gouvernement soufflait les braises et attisait le feu. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Est-ce que vous allez soutenir les gilets jaunes ?
En tout cas, je suis vraiment beaucoup sur le terrain en ce moment, quasiment 5 jours dans Lyon et seulement 2 jours à Paris pour venir vous voir. Je sens monter une grande détresse sociale. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se plante dans la capacité à brancher le plan de relance sur les territoires. Hein, très concrètement.
Mais vous les soutenez ou pas ?
Ce que je veux, c'est soutenir les salariés en difficulté, les boîtes qui sont actuellement avec des carnets de commandes qui, en général, ne dépassent pas le mois de novembre ou le mois de décembre. Voilà. Il faut absolument que ces 100 milliards d'euros dont on parle de manière un peu abstraite ici à Paris, ça se décline concrètement dans les PME, dans les PMI des 577 circonscriptions de France. C'est ça la clé, Cécile de Ménibus. Ouais. Si on veut éviter que des Français désespérés et extrêmement tendus aillent dans la rue ou sur les ronds-points dans les mois à venir, il faut vraiment qu'on ne se rate pas dans la définition, dans l'application du plan de relance. Et c'est pour ça que j'avais voté en faveur du discours de politique générale de Jean Castex. C'était pas parce que je cherchais une place, mais parce que j'ai envie que ça marche. Je suis évidemment pas en marche, mais je veux que ça marche. C'est ça, mon obsession, parce que j'ai envie que notre pays se retrouve pas dans 18 mois, dans une espèce de chaos extrémiste, en devant choisir entre des ultras de droite ou des ultras de gauche. Voilà. J'ai pas envie qu'on ait une affiche de la présidentielle où ce soit Le Pen contre une espèce de guignol d'extrême gauche, écologiste, rouge, rose, vert. C'est ça le sujet. Parce que si c'est ça, le pays véritablement s'effondrera.
Merci, donc, il faut pas qu'on se Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio.
7h58.